Chapitre 6. Le bal. Pendant que sa femme s'habillait pour le dîner, Anne avait une visite, le prince Narumov, que tout le monde croyait mort. Les journaux avaient annoncé l'assassinat de ce prince, un des amis du tsar Nicolas. Le prince Narumov ne connaissait plus personne à Paris. Il venait chez Anne parce que la semaine précédente, à Vienne, on lui avait parlé du séjour des Orgel l'été. Anne lui propose de loger chez eux. Une chose l'inquiétait. Le prince n'allait-il pas gêner une soirée de préparation au prochain bal? La comtesse d'Orgel arrive, très faible. Le prince et elle se sentent aussitôt attirés l'un vers l'autre. Anne ordonne d'ajouter un couvert. Mao pensait que c'était inutile. Elle attendait un coup de téléphone de François s'excusant de ne pouvoir venir. Les premiers invités arrivent. Anne d'Orgel leur raconte l'histoire du prince Narumov. Paul Robin arrive. Mirza et sa nièce le suivent. Narumov dit à Mirza qu'il a regretté de ne pas l'avoir vu en Perse, quand au début de la guerre, il est allé rendre visite au Shah. Mirza s'excuse d'avoir été absent. Il ne manquait plus que la princesse d'Austerlitz et François. Madame d'Orgel était sûre, maintenant, que François ne viendrait pas. François, lisant et relisant la lettre, avait traîné en chemin. Au moment où il sonne à la porte de l'hôtel d'Orgel, Hortense d'Austerlitz descend de voiture. Il l'attend. Mao ne voit François que lorsqu'il est à deux pas d'elle. Elle recule. Comme il semble à l'aise, elle pense que Madame de Sérieuse ne l'a pas encore vue. Dès le début du dîner, Narumov essaie d'être gai. Mais il entend mal ses voisines, se fait répéter leurs paroles. La rapidité de la conversation le gênait. Madame d'Orgel comprend la gêne de Narumov. Ils parlent ensemble. Narumov lui raconte la Russie. Madame d'Orgel se sent mal. La Russie n'était pas la cause de son trouble, mais un prétexte. Narumov, la voyant ainsi, pense « C'est une personne de cœur ». Mao évitait François. Pourtant, parfois, elle tournait les regards vers lui afin de le surveiller. François avait comme voisine la jeune persane. « Cette enfant est ravissante », pense-t-elle en regardant François. Madame d'Orgel apprenait la jalousie. « Comme vous devez les détester, ces bolchevistes !» dit Esther Wayne au prince Narumov. « Peut-on rendre les hommes responsables d'un tremblement de terre ?» répond le prince. « Ce qui doit arriver arrive. » Je crois que la France juge trop la révolution russe d'après sa révolution. Mais le mot « révolution » ne convient pas à ce qui arrive chez nous. Pour vous prouver que tout ce que vous savez sur la Russie n'est peut-être pas vrai, n'oubliez pas que l'on a dit que j'avais été assassiné. Or, on n'a jamais touché à un de mes cheveux. « Il est vrai, » ajoute-t-il sombrement, « qu'en me laissant la vie, on m'a enlevé mes raisons de vivre. » À la phrase d'Esther Wayne, le comte d'Orgel avait frémi. Sa soirée allait être gâchée. Mais quand le prince avait répondu, il avait respiré. « Voilà un réfugié russe moins ennuyeux que les autres », s'était-il dit. Tout le monde avait pensé comme Anne. « Vous êtes étonnant, Narumov, » dit Hortense d'Austerlitz. « Vous n'avez pas changé. »«
Je n'ai pas changé, » dit le prince, « mais j'ai tout perdu. Que me reste-t-il ? Le charme slave.
Et le charme slave est venu à Paris pour tout oublier, dit Anne.
N'ennuyons pas le prince en lui parlant du cauchemar bolchevique.
On se lève de table. Dans le salon, on commence à parler du bal costumé. Tout le monde était d'accord sur un point, il fallait un thème au bal. On était moins d'accord sur le thème. Esther Wayne, un carnet sur ses genoux, dessinait des costumes affreux. Hortense d'Austerlitz se coiffait d'un abat-jour, jouait avec ses vêtements. Cela donne à Anne une idée. Il demande à François de l'accompagner pour l'aider à descendre des tissus. Pendant qu'il ouvre des tiroirs, il dit à François
« Je ne sais pas ce qu'a Mao ce soir, c'est encore pire que d'habitude. »
Pour la première fois, François jugeait Anne. Il le trouvait puéril. Il le regardait se charger d'écharpes, de turbans. Ils redescendent et jettent les tissus sur le tapis.
Les invités se les arrachent et se déguisent avec. Ils voyaient dans ces tissus la possibilité de devenir ce qu'ils auraient voulu être.
François les méprisait. Il ne voulait être que lui-même.
Au milieu de cette fête imprévue, Anne Dorgel perd la tête. Il quitte le salon, revient coiffé du chapeau tyrolien de Narumov et fait un pas de danse russe. Les invités rient. Pas le prince.
« Je m'excuse, » dit-il. « Ce chapeau est à moi. Il m'a été donné par des amis autrichiens qui ne pouvaient rien m'offrir d'autre. »
Les rieurs ne riaient plus. Madame Dorgel était horrifiée par l'attitude de son mari. Elle ne pouvait supporter qu'Anne se ridiculise devant Sérieuse. Que pourrait-elle répondre si François lui reprochait de sacrifier son amour à un homme aussi puéril? Madame Dorgel avait raison. François pensait ainsi. Mao décide alors de devenir la complice de son mari et de répondre silencieusement à François qu'elle n'a pas trouvé le geste de son mari horrible. Aux paroles sèches de Narumov, elle se lève, se dirige vers Anne. Elle marchait à la mort.
« Non, Anne, comme ceci !» dit-elle en cabossant le chapeau.
La gêne est énorme. Anne Dorgel avait du moins l'excuse de l'excitation. Mais le geste de la comtesse Dorgel prouvait une froide volonté. « Voilà comment il la déforme », se disait François. De tous les invités, le prince Narumov était le plus étonné. Mais il sentait que Madame Dorgel avait une raison secrète. «
Elle est trop fine pour n'avoir pas eu honte de son mari », se disait-il. « Elle est venue prendre sa part de blâme. »
À l'apparition d'Anne Dorgel, il avait été le seul à ne pas rire. Il est maintenant le seul à s'esclaffer.
« Bravo !» s'écrie-t-il.
Les invités, stupéfaits, respirent. Ils abandonnent les tissus et se préparent à partir. Mao sentait ses forces diminuer. « Pourvu que François parte vite !» se répétait-elle. « Qu'il ne sache rien ce soir, qu'il passe encore une nuit calme !» Elle se tenait à peine debout devant Esther Wayne. À ce moment-là, du salon voisin, on entend le rire de la persane. Esther Wayne la retient par la taille. Elle allait tomber. On l'allonge. Sérieuse court vers le comte Dorgel.
« Mao n'est pas bien. »« Allons bon, » dit Anne Dorgel.
Il revient dans la pièce, suivi des autres, mais Madame Dorgel allait déjà mieux. Quelque temps plus tard, le comte revient voir sa femme avec François et lui dit.
François voudrait rester un peu avec vous.
« Non, non !» s'écrie Madame Dorgel. « Laissez-moi. Vous êtes trop bon, François. Mais je vous assure, je n'ai besoin que de sommeil. »«
Je prendrai de vos nouvelles demain matin, » dit Sérieuse.
Mao le regarde disparaître dans l'autre pièce, accompagnée par Anne. Elle ne pouvait pas prendre le risque de le revoir. Parler à sa mère n'était pas suffisant. Elle devait parler à Anne.
« J'ai besoin de vous parler, » lui dit-elle quand il revient.
« J'installe Narumov et je monte chez vous. »
Le comte Dorgel trouvait incroyable qu'une femme ait besoin de parler à son mari. Il ne se pressait pas. Il traînait dans la chambre de Narumov. Il espérait arriver trop tard, quand Mao serait endormi. Anne Dorgel entre et s'assoit auprès du lit de sa femme.
« Eh bien, qu'est-ce que cela ? S'évanouir devant du monde. »«
Je n'ai plus de force. Je ne peux plus continuer. »
Elle avoue tout très vite, avec un ton de reproche. À cause de cette sécheresse, le comte Dorgel ne comprend pas. Elle s'en aperçoit, s'affole. Elle recommence et ajoute à son aveu des reproches qu'Anne juge puérils. L'aveu de sa femme lui semblait faux. Il ne sentait rien. Il avait l'impression que tout lui était égal, qu'il n'aimait pas Mao. Mao essaie alors de blesser le comte. Elle lui dit qu'il a mal agi avec Narumov et ce qu'elle a dû faire pour le soutenir.
« Tenez, » dit-il, « vous êtes malade, nerveuse, méchante. Je connais Narumov. S'il avait été fâché, il me l'aurait montré. »
Il continue.
« Vous êtes une enfant. Vous avez la fièvre. Vous regretterez cette scène au réveil. »
Il se lève. Mao le retient par sa manche avec une force qu'elle ne se soupçonnait pas.
« Quoi ? Vous partez ?
Anne d'Orgel se rassoit en soupirant.
Eh bien, sachez que j'ai écrit à Madame de Sérieuse. Elle est venue. Elle sait tout.
Vous avez fait cela ?
On sentait si bien l'indignation, la colère dans cette voix, que Madame d'Orgel avait enfin peur. Enfin, il semblait comprendre. Attendant et souhaitant une tempête, elle ferme les yeux. Mais Anne regrette déjà de s'être énervée. Il dit d'une voix douce.
« C'est absurde. Nous devons trouver un moyen de tout arranger. »
Il y avait entre ces deux êtres une grande distance. Mao regardait Anne. Assise dans un autre monde, elle était devenue une statue.
« Allons, Mao, calmez-vous. Le mal est fait. Réparons-le. François viendra au bal, et peut-être serait-il bien que Madame de Sérieuse vienne aussi. »
Puis, l'embrassant sur les cheveux,
« François doit être à notre bal. Vous lui choisirez son costume. »
Debout, Anne était beau. En sortant à reculons, il prononce la phrase des hypnotiseurs.
« Et maintenant, Mao, dormez, je le veux. »